Les pays arriérés et le programme de revendication transitoire. Les pays coloniaux et semi-coloniaux sont, par leur nature même, des pays arriérés. Mais ces pays arriérés vivent dans les conditions de la domination mondiale de l'impérialisme. C'est pourquoi leur développement a un caractère combiné. Il réunit en lui les formes économiques les plus primitives et le dernier mot de la technique et de la civilisation capitaliste. C'est ce qui détermine la politique du prolétariat des pays arriérés. Il est contraint de combiner la lutte pour les tâches les plus élémentaires de l'indépendance nationale et de la démocratie bourgeoise avec la lutte socialiste contre l'impérialisme mondial. Les revendications de la démocratie, les revendications transitoires et les tâches de la révolution socialiste ne sont pas séparées dans la lutte par des époques historiques, mais découlent immédiatement les unes des autres. Ayant à peine commencé à édifier des syndicats, le prolétariat chinois se trouvait déjà contraint de penser aux soviets. C'est dans ce sens que le présent programme est pleinement applicable aux pays coloniaux et semi-coloniaux, au moins à ceux où le prolétariat est déjà capable d'avoir une politique indépendante. Les problèmes centraux des pays coloniaux et semi-coloniaux sont la majuscule révolution agraire fin de majuscule, c'est-à-dire la liquidation de l'héritage féodal, et majuscule l'indépendance nationale fin de majuscule, c'est-à-dire le renversement du joug de l'impérialisme. Ces deux tâches sont étroitement liées l'une à l'autre. Il est impossible de rejeter purement et simplement le programme démocratique. Il faut que les masses elles-mêmes dépassent ce programme dans la lutte. Le mot d'ordre 2, majuscule, l'Assemblée nationale, fin de majuscule, ouvrez la parenthèse, ou constituante, fermez la parenthèse, conserve toute sa valeur dans des pays comme la Chine ou l'Inde. Il faut lier indissolublement ce mot d'ordre aux tâches de l'émancipation nationale et de la réforme agraire. Il faut avant tout armer les ouvriers de ce programme démocratique. Eux seuls peuvent soulever et rassembler les paysans. Sur la base du programme démocratique révolutionnaire, il faut opposer les ouvriers à la bourgeoisie nationale, entre guillemets. À une certaine étape de la mobilisation des masses, sous les mots d'ordre de la démocratie révolutionnaire, les soviets peuvent et doivent surgir. Leur rôle historique dans chaque période donnée, en particulier leur rapport avec l'Assemblée nationale, est déterminé par le niveau politique du prolétariat, par la liaison entre celui-ci et la classe paysanne, par le caractère de la politique du parti prolétarien. Tôt ou tard, les soviets doivent renverser la démocratie bourgeoise. Eux seuls sont capables de mener la révolution démocratique jusqu'au bout et d'ouvrir ainsi l'ère de la révolution socialiste. Le poids spécifique des diverses revendications démocratiques et transitoires dans la lutte du prolétariat, leur liaison réciproque, leur ordre de succession, sont déterminés par les particularités et les conditions propres de chaque pays arriéré, pour une part considérable par le degré de son retard. Cependant, la direction générale du développement révolutionnaire peut être déterminée par la formule de la majuscule révolution permanente fin de majuscule, dans le sens qui a été définitivement donné à cette formule par trois révolutions en Russie, ouvrez la parenthèse, 1905, février 1917, octobre 1917, fermez la parenthèse. L'internationale communiste, entre guillemets, a donné aux pays arriérés l'exemple classique de la manière dont on peut causer la ruine d'une révolution pleine de force et de promesses. Lors de l'impétueuse montée du mouvement des masses en Chine en 1925-1927, l'IC, note de la donneuse de voix, IC, internationale communiste, fin de la note de la donneuse de voix. Donc, lors de l'impétueuse montée du mouvement des masses en Chine, en 1925-1927, Lissée ne lança pas le mot d'ordre d'Assemblée nationale et en même temps interdit la formation de soviets. Le parti bourgeois du Kuomintang devait, selon le plan de Staline, remplacer entre guillemets à la fois l'Assemblée nationale et les soviets. Après l'écrasement des masses par le Kuomintang, Lissée organisa à Canton une caricature de soviets. Après l'effondrement inévitable de l'insurrection de Canton, Lissée entra dans la voie de la guerre de partisans et des soviets paysans avec une complète passivité du prolétariat industriel. Conduite dans cette voie à une impasse, Lissée profita de la guerre sino-japonaise pour liquider d'un trait de plume la « Chine soviétique » en subordonnant non seulement l'armée rouge entre guillemets paysanne, mais aussi le parti dit communiste au Kuomintang lui-même, c'est-à-dire à la bourgeoisie. Après avoir trahi la révolution prolétarienne internationale au nom de l'amitié avec les esclavagistes démocratiques, le Komintern ne pouvait manquer de trahir également la lutte émancipatrice des peuples coloniaux. Note de la donneuse de voix. Le Komintern est un autre nom pour l'International communiste, abréviation de son nom russe.
Коммунистический интернационал.
Encore appelé Troisième International. Fin de la note de la donneuse de voix. Donc, après avoir trahi la révolution prolétarienne internationale au nom de l'amitié avec les esclavagistes démocratiques, le Komintern ne pouvait manquer de trahir également la lutte émancipatrice des peuples coloniaux, avec d'ailleurs un cynisme encore plus grand que ne l'avait fait avant lui la Deuxième Internationale. La politique des fronts populaires et de « défense nationale » entre guillemets a comme une de ses tâches de faire avec les centaines de millions d'hommes de la population coloniale de la chair à canon pour l'impérialisme « démocratique » entre guillemets. Le drapeau de la lutte émancipatrice des peuples coloniaux et semi-coloniaux, c'est-à-dire de plus de la moitié de l'humanité, passe définitivement aux mains de la Quatrième Internationale.